RCF.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre émission Vivre et créer en couleur. Nous sommes bien sûr avec notre peintre, Béatrice Vialcollet. Bonjour Béatrice.
Bonjour Cathy, bonjour tout le monde.
Et moi-même, Cathy Béchameil. Une nouvelle saison commence et pour faire sonner de belles couleurs, nous accueillons Christine Merville. Bonjour Christine.
Bonjour.
Christine est comédienne, conteuse. Elle crée des spectacles à La Rochelle et vous entendrez, sa voix est magique. Elle y met toute sa passion, son imaginaire, les émotions de ses voyages et de l'Afrique où elle a vécu. Nous avons déjà parlé à Vivre en couleur du noir et du blanc. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les relations qu'entretiennent ces deux couleurs, l'une avec l'autre. Mais aussitôt, il me semble entendre nos auditeurs se poser la question « Est-ce que blanc et noir sont vraiment des couleurs ?» Qu'en est-il, Béatrice ?
Et la réponse est oui, Cathy. Blanc et noir sont effectivement des couleurs. Parce que percevoir du noir ou du blanc, c'est exactement le même phénomène que percevoir n'importe quelle autre couleur. Le blanc et le noir sont des sensations, comme toutes les couleurs. C'est en quelque sorte une réponse de notre œil à la lumière. En fait, l'objet n'a pas de couleur en lui-même, il devient rouge, blanc ou noir parce qu'une lumière particulière est renvoyée à notre œil par l'intermédiaire de la sensation. Alors mon cerveau réagit, il analyse cette sensation avec le vécu qui est le sien et il voit du rouge, du bleu, du noir ou du blanc.
Mais Béatrice, dites-nous tout de suite, pourquoi associer ces deux couleurs ?
On les associe parce que blanc et noir se rencontrent sur beaucoup de points. La physique et l'histoire les associent. Et premier point, blanc et noir dominent ensemble dès l'origine. Toutes deux apparaissent dans les peintures rupestres. On connaît ce magnifique bison à Lascaux. Il a été figuré avec une poignée de charbon. Mais l'homme de la préhistoire utilise aussi beaucoup le blanc de la craie. Et c'est aussi en blanc et noir que les peuples primitifs réalisent leur peinture corporelle.
En blanc, les Maasai signalent le franchissement de chaque étape de leur vie par des peintures réalisées avec de la craie. La danse blanche, par exemple, réunit 400 guerriers dans des carrières de craie sacrée. Leur corps est couvert de peintures qui évoquent les exploits accomplis depuis la dernière initiation.
On peut aussi parler des nomades sahariens. Le corps des circoncis et des jeunes filles excisées est couvert d'argile blanche, comme un signe de vie et de symbolique solaire.
Et les Nubas du Soudan, eux, à l'occasion de leur lutte initiatique, s'enduisent d'une cendre blanche qui signale leur exploit, et de plus, elle soigne leur peau et la protège des moustiques et autres parasites.
On pourrait peut-être essayer, hein. Oui. En ce qui concerne le noir, le tatouage, cette pratique qui s'est vraiment répandue aujourd'hui, tient en fait son origine des mots tahitiens. Ta, qui veut dire dessin inscrit sur la peau, et atoa, qui est l'esprit. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le tatouage est rapporté de Polynésie par le capitaine Cook.
Et dans l'Égypte pharaonique aussi, le tatouage est utilisé contre les puissances du mal. Il signale un individu, comme le chef ou le sorcier par exemple, et conclut un rite d'initiation. Il est réalisé à partir d'encre à base de noir de fumée.
Mais surtout, souvenons-nous, si blanc et noir sont si liés, c'est que blanc et noir forment avec le rouge le trio dominant dans l'Antiquité méditerranéenne.
C'est exactement ça, Cathy. Le blanc représente l'incolore et la pureté, alors que le noir est le sombre et le sale, et le rouge est la couleur. Les codes sociaux s'organisent autour de ces trois pôles dans l'Antiquité orientale et gréco-romaine. À titre de démonstration, voici une expérience très très révélatrice. Des anthropologues placent des hommes de toutes les origines devant un tableau de 329 cases de couleurs différentes. Ils leur demandent de nommer ces couleurs et leur étendue. La plupart des langues s'accordent sur la présence de six couleurs : noir et blanc, jaune, bleu, rouge, vert. Quelques langues primitives nomment moins de couleurs, mais toujours, au minimum, ils nomment la fameuse trilogie de base, c'est-à-dire noir, blanc et rouge.
Et pour Michel Delpech, le blanc, c'est comme un soleil dans le gris du ciel. Il nous le chante dans White is White. Écoutons.
is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, les pieds nus comme un cyclone inattendu, comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. White is white, Dylan is Dylan. White is white, she's white.
Bienvenue sur RCF pour vivre et créer en couleur. Aujourd'hui, précisément avec le blanc et le noir. On va découvrir à quel point et pourquoi ces deux couleurs sont fondamentales. Elles ont dominé dès l'origine et, deuxième point commun, noir et blanc sont l'un et l'autre la somme de toutes les couleurs. C'est bien sûr la première réflexion qui nous vient quand on pense couleur, c'est que les couleurs apparaissent à la clarté du jour et s'éteignent avec lui.
Oui, bien sûr. C'est ainsi que dès l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance, on associe la couleur à la lumière. En effet, jusqu'au XVIIe siècle, les couleurs sont classées suivant leur degré de clarté. Dans une échelle qui va du blanc au noir, on analyse les couleurs à partir de trois paramètres. Le premier est la teinte, c'est-à-dire le ton, la nuance de couleur. Le deuxième paramètre est la clarté, c'est-à-dire la valeur, l'intensité lumineuse. Et le troisième est la saturation, c'est-à-dire la pureté d'une couleur, le niveau de pigmentation. Blanc et noir, eux, figurent les pôles extrêmes des couleurs. Il faut en effet se rappeler que le blanc est la synthèse par addition des couleurs lumière. Comme on l'a déjà vu, la découverte vient de Newton. Son intuition géniale est de penser que la lumière n'est pas homogène, mais qu'elle est composée de rayons colorés aux angles de réfraction différents. La conséquence, eh bien, c'est que la lumière blanche est, suivant le mélange qui s'opère, plus ou moins colorée de telle ou telle couleur. Et dans la pratique, ça signifie qu'observer et se demander vers quelle couleur penche un nuage, qu'on peut penser a priori blanc, tout simplement, c'est une excellente façon de vivre en couleur.
C'est dire en quelque sorte que le blanc n'est jamais tout à fait blanc. C'est ce qu'on peut lire dans « La jeune fille à la perle » de Tracy Chevalier. À Delft, au XVIIe siècle, c'est l'âge d'or de la peinture hollandaise. la toute jeune et jolie Griette est servante dans la maison du peintre Vermeer. Elle va poser pour le maître qui l'introduit peu à peu dans son univers.
Regardez dehors.
Je regardais. Le ciel était couvert. Il soufflait un petit vent frais. Des nuages passaient derrière la tour de la nouvelle église.
De quelle couleur sont ces nuages ?
Ils sont blancs, bien sûr, monsieur. Il parut un peu étonné.
Vous trouvez ?
Je l'ai regardé de nouveau. Et gris aussi. Peut-être va-t-il neiger ?
Allons, Griette. Vous avez de meilleurs yeux que ça. Pensez à vos légumes.
Mes légumes, monsieur ? Il remua légèrement la tête. Je l'agaçai. Ma mâchoire se crispa.
Rappelez-vous comment vous aviez mis à part les légumes blancs. Vos navets et vos oignons sont-ils du même blanc ?
Je finis par comprendre. Non, dans le navet, vous avez du vert et dans l'oignon, du jaune.
C'est exact. Et maintenant, quelle couleur voyez-vous dans les nuages ?
J'y vois du bleu, répondis-je, après les avoir étudiés quelques minutes. Et aussi du jaune, et même un peu de vert. Je l'ai montré du doigt, excitée que j'étais. Toute ma vie, j'avais vu des nuages, mais j'eus à cet instant l'impression de les découvrir.
C'est vrai, on le comprend bien dans ce texte. Dans le blanc, on retrouve toujours d'autres couleurs. Mais pas de jaloux, il en va de même pour le noir. Car, rappelons-nous maintenant, le noir est la synthèse par soustraction des couleurs matière.
Voilà, parce que se passe-t-il quand on mélange des couleurs matière, des peintures ou des encres, par exemple ? Eh bien, on peut vérifier que l'on soustrait à chaque fois de la lumière. Car plus on mélange, plus on obscurcit et plus le mélange s'opacifie. Et ce, jusqu'au noir. Je veux dire qu'en fait, dans la nature, il n'y a ni blanc ni noir absolu. Un noir n'est jamais tout à fait noir, puisqu'il y a toujours un peu de lumière, donc un restant de couleur.
Ah oui, sinon on ne verrait rien. Ça voudrait dire qu'on est dans le noir total.
Oui.
Contrairement à ce que chante Johnny Hallyday, pour qui noir, c'est noir.
Rien que pour nous.
Pour ceux qui nous rejoignent sur RCF, nous tentons de vivre et créer en couleur. Et aujourd'hui, précisément avec le blanc et le noir. Johnny Hallyday nous chante que pour lui, le noir est noir. Il n'y a plus d'espoir. Il faut dire qu'en 1966, il est épuisé par le rythme des galas, très déprimé. Il est du reste hospitalisé d'urgence. Mais il est vrai que le noir est l'ombre et le blanc la lumière.
Oui, le noir est l'ombre et le blanc la lumière. On pourrait dire que le blanc et le noir sont en fait de la lumière et de l'ombre. Et la couleur que l'œil perçoit est celle qui est renvoyée par l'objet. Revenons au début du phénomène. Lorsque la lumière se réfléchit sur un objet, eh bien de trois choses l'une. Soit l'objet en absorbe une partie et il en réfléchit une autre, celle que l'œil voit. Soit la lumière est entièrement absorbée par lui, alors on voit du noir. Soit elle réfléchit en totalité et on ne voit que la lumière blanche.
Dans la Genèse, à propos de la création du monde, Dieu dit « que la lumière soit » et le rapport à la nuit et la lumière fait naître l'ombre réciproquement.
Exactement. Scientifiquement parlant, la lumière est sans doute apparue avec le Big Bang, il y a presque 14 milliards d'années, mais chaque corps céleste a son propre rayonnement. La lumière que nous connaissons sur Terre, la nôtre, nous est apparue quand le Soleil est né, il y a plus de 4 milliards d'années. On peut remarquer du reste que c'est en noir et blanc que la première matière vivante sur Terre, une cellule simple, aperçut le monde. Bien sûr, les yeux complexes viendront bien plus tard.
En fait, dans la Bible, on ne parle pas vraiment de noir et blanc, mais plutôt d'ombre et de lumière. La référence est toujours hautement symbolique et incontournable. Il s'agit de sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. On peut citer comme exemple le baptême, qui se célèbre en blanc, c'est le début d'une nouvelle vie. La tenue blanche du pape, qui est aussi celle de l'autorité. La transfiguration de Jésus, où Jésus apparaît vêtu d'une robe blanche, blanc de lumière, dit saint Luc. Blanc et lumineux, plus blanc que aucun tissu ne peut l'être sur la terre, dit Marc.
Oui, avec le blanc, on se tourne vers un avenir lumineux, alors que le noir peut nous ramener à l'ombre. Il inquiète, il induit un climat pénible, mystérieux. On retrouve cette ambiance dans Fin de siècle de Jean Édernalier.
Le vent noir, d'aussi loin qu'il m'en souvienne, il souffle sur toute ma petite enfance. Quand il revient, je ne m'y trompe pas, la sueur trempe mes draps. En rêve, sa voix nostalgique, sa voix forte, me hèle doucement. J'ouvre les yeux au-dessus de la lande d'Inderden, tandis que Kerguelen, assis en fumant sur son banc de granit, me dit
« Regarde, petit, le vent noir, là-bas. Le jour agonise, mauve. Le soleil se laisse trancher par les crêtes rocheuses, au fond du paysage. Les dernières lueurs effrangent les branches des rangées tordues de têtards, ces chênes nains. Les chiens aboient de quelques fermes lointaines, et tout près, le cadavre d'un crapaud écrasé par une roue de tracteur grandit à vue d'œil comme un caillou de nuit. C'est à cette heure sinistre que vient le vent noir. Noir comme une ombre noire. L'ombre d'un cheval noir, errant indécis entre les marécages. Son galop est incertain et lent. Elle trébuche sur les arêtes granitiques. Tantôt elle s'approche prudemment des bourgades, tantôt elle s'éloigne peureuse. Tantôt, quelque chose comme l'aile d'un immense oiseau nocturne effleure les arbres, les vaches, les toitures, les clochers des chapelles et les grands hangars de tôle ondulés des élevages de poulets. Aussitôt, leur couleur s'assombrit, se teint de nuit. Des vapeurs charbonneuses noient le crépuscule en une seule étendue d'air et de terre. Les rares passants prennent des yeux noirs et luisants. Les autos roulent, noirâtres, et des rires de fillettes, s'attardant au préau de l'école, s'élèvent des corbeaux noirs. Les gens secouent la tête, éberlués ou sages, regardant le vent caracoler maladroitement en chuchotant l'ombre de la nuit peut être teinte noire le vent. Mais nul n'osait interpréter plus avant ce phénomène. Comme c'est beau, l'ombre de la nuit peut être teinte noire le vent.
Ah oui, dans ce très beau texte poétique, tout est noir. C'est vrai, la portée du noir est souvent négative. Elle peut même être augmentée par la comparaison avec d'autres couleurs. Dans l'Empire des anges, Werber évoque les sept ciels que traverse un mort dans sa montée vers la lumière blanche.
Ce trou noir aspire tout. Les systèmes solaires, les étoiles, les planètes, les météorites. Et il m'emporte aussi. Je me souviens des cartes du continent des morts.
J'accoste au premier ciel. C'est un territoire conique, bleu. On y pénètre à travers une écume d'étoiles. Au seuil du continent des morts, je distingue maintenant des présences. À côté de moi, d'autres morts, telle une migration complète de papillons monarques, foncent vers la lumière. Des victimes de la route, des malades incurables, un passant malchanceux qui a reçu un pot de fleurs sur la tête, un bricoleur qui s'était raflé avec un clou rouillé sans être vacciné contre le tétanos. Ce sont les défunts du jour. Je les salue. Je franchis le premier mur et débouche sur le deuxième ciel. Le territoire noir de toutes les peurs. Elles se matérialisent sous forme d'horreurs issues du tréfonds de mon imagination. Ténèbres, frissons, monstres facétieux et démons modernes m'y accueillent. Sur 9 corniches de plus en plus escarpées, j'affronte mes cauchemars les plus hideux. Mais la lumière centrale est toujours présente et continue à me guider droit devant. J'affronte toutes mes frayeurs de face, dans une semi-pénombre.
Cela me fait penser au livre de l'Apocalypse que saint Jean écrit d'après un songe qu'il a eu dans l'île de Patmos. Il parle de 4 chevaliers de l'Apocalypse.
Le premier est sur un cheval blanc et il porte un arc, symbole de victoire.
Le second est sur un cheval rouge feu. Il porte une épée, symbole de la guerre.
Le troisième est noir, et le chevalier qui le monte porte une balance sur laquelle il pèse du blé. C'est le symbole de la famine.
Le quatrième est verdâtre, et celui qui le monte s'appelle la peste.
Ici, il s'agit d'évoquer la chute de l'Empire romain. On peut voir là combien la Bible utilise les couleurs pour symboliser les concepts, les événements.
Absolument, mais cette symbolique, celle du blanc et du noir qui nous intéresse aujourd'hui, elle est très variable dans l'histoire et chacun s'arroge tour à tour le beau rôle. Voyons par exemple les moines blancs qui s'opposent aux moines noirs. L'habit des cisterciens est blanc, couleur de la pureté et de l'innocence de la Vierge Marie, alors que l'habit des bénédictins est noir, en signe d'humilité. Précisons que l'habit des cisterciens ne sera vraiment blanc qu'au XIIe siècle, parce qu'à l'origine, il est plutôt gris, plus ou moins foncé, c'est-à-dire de la couleur de la laine brute qui n'est pas traitée. Il faut savoir que ce sont les moines cisterciens eux-mêmes qui fabriquent leur habit comme ils peuvent. Ils exposent la toile à la rosée du matin et ensuite au soleil, mais la couleur qu'ils obtiennent ainsi ne tient pas et vire rapidement au bistre.
L'histoire se répète. Au XVIIe siècle, les dominicains en blanc et les jésuites en noir s'affronteront à leur tour.
Et oui, et il ne faut pas oublier Luther qui, à son tour, au début du XVIe, a fait la guerre aux couleurs vives et trop voyantes. Il met en place des usages construits autour d'un axe noir, gris, blanc, et ce, non seulement en ce qui concerne l'habillement, mais dans tous les domaines de la vie religieuse et de la vie sociale.
On pourrait penser que c'est pour ces mêmes raisons de rigueur que Henry Ford s'obstinera à fabriquer des voitures noires.
Mais exactement, en vrai protestant qu'il était, c'est-à-dire très puritain.
Conclusion, notre première émission sur le noir et blanc touche à sa fin. Alors, aujourd'hui, Béatrice Vialcollet, quel sera notre clap final pour vivre et créer en couleur?
Oh, il s'impose. Bien sûr, nous allons garder le ressenti le plus positif du noir et du blanc en tant qu'ombre et lumière. Laissons-nous porter. Écoutons la belle envolée qu'Edmond Rostand met dans la bouche de Cyrano de Bergerac.
C'est la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière.